que nous n'étions pas passés vous voir. Le temps passe vite, hein, c'est vrai que le temps passe et puis on est occupé, nos différentes occupations ici-bas eh bien, nous emmènent dans des sentiers qui parfois nous éloignent les uns des autres et puis après on est heureux de se retrouver. Donc c'est avec beaucoup de joie que je vous revois aujourd'hui, Lisa. Merci pour la présentation. C'est super et je revois les enfants, les grands garçons d'Ao là qui grandissent, hein. Et puis la grande fille. Tu es sage ? J'espère. Et puis la petite là-bas, c'est super. Et tout le monde, énorme, il est sage aussi. Oui, ça va. Bon, donc tout va bien. Donc c'est vrai, nous sommes vraiment heureux de partager ces moments. Et aujourd'hui, on va eh bien, partager un passage de la Bible. Le passage de Matthieu, je pense qu'il est connu. Passage qui nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a annoncé en son temps la venue du Seigneur. Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Jean-Baptiste qui a eu un ministère particulier. Bon, on a quelques détails sur la vie de Jean-Baptiste. On sait qu'il est né d'une famille croyante, de Zacharie et d'Élisabeth. On sait que dès sa jeunesse, il a été. La Bible nous dit que le Saint-Esprit était là présent dès le sein maternel. Donc on le voit là, prêchant dans le désert. Et puis on connaît aussi sa fin tragique. Donc c'est vrai que ce récit, on pourrait l'apparenter à un fait historique, dire voilà, c'est une chose qui s'est passée, personne ne le conteste. Pardon. Si vous tapez sur Internet Jean-Baptiste, on voit tous les récits. Donc on se dit, ça c'était quelque chose de connu. Le texte d'Ésaïe peut-être un petit peu moins, mais cet après-midi on va s'arrêter sur ce texte. Ce texte qui nous parle de la même chose, puisque quand on regarde Matthieu, il nous a dit que selon ce qu'a écrit Ésaïe le prophète, eh bien ce Jean viendrait. Donc là, pour Ésaïe, on a affaire à un texte prophétique et on se dit, ben, ça c'est la grandeur, la puissance de Dieu qui se manifeste, puisque Ésaïe a vécu environ 700 ans, 7 siècles avant la venue de Jean-Baptiste. Donc Dieu seul est capable de pouvoir prévoir des événements tels que nous les voyons cet après-midi. Et après tout, on pourrait se dire, bon, ça c'est bien, mais c'est du passé, c'est quelque chose qui nous parle effectivement de la grandeur de Dieu, mais c'est quelque chose qui est passé. La venue de Jean-Baptiste, il a précédé le Seigneur Jésus, c'est du passé. Et puis, c'est du passé, on pourrait passer rapidement sur ces textes-là en se disant, bon, après tout, qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Mais cet après-midi, j'aimerais que l'on se penche plus particulièrement sur le texte d'Ésaïe, qui, c'est vrai, nous a parlé de la venue de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en son temps, il nous a dit qu'il a prêché dans le désert. Effectivement, la situation religieuse, la situation politique n'était pas forcément très facile dans le pays. On sait que le pays était envahi par l'Empire de Rome. Religieusement, bon, c'est sûr, il y avait de la religion, mais on voit que dès que Jean-Baptiste va prêcher, va parler sur la repentance, eh bien, de nombreuses personnes vont s'approcher. Il nous a dit que les gens de Jérusalem, les habitants d'alentour, ceux qui habitaient dans la région du Jourdain, eh bien, vont s'approcher et vont se convertir. Ce n'est pas encore tout à fait le christianisme, mais ils vont être touchés par le message de Jean-Baptiste, ce message de la repentance. Alors on se dit, oui, ce temps-là était difficile et peut-être qu'on peut faire un petit parallèle, bien que le contexte soit différent, mais par rapport à notre époque, après tout. Aujourd'hui, nous sommes le 28 novembre 2010, nous sommes au 21e siècle, de nombreuses années ont passé, mais après tout, les besoins, les aspirations des hommes, est-ce qu'ils ont vraiment changé ? Est-ce que le contexte est plus facile aujourd'hui pour parler de Dieu ? Est-ce que le désert, puisque Jean a prêché dans le désert, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas cette sorte de désert spirituel ? que Jean a pu rencontrer à son époque. Rappelez-vous, à son époque, même les religieux, quand ces religieux s'approchent, eh bien Jean ne va pas y aller par quatre chemins, il va les maltraiter en quelque sorte, va leur dire « race de vipère », c'est quelque chose de plutôt fort, assez puissant. On s'aperçoit qu'il leur dit mais si vous voulez vous approcher du royaume de Dieu, eh bien, produisez du fruit digne de la repentance. Et on peut se dire, effectivement, quel était leur fruit. Et quand on lit les évangiles, quand on lit la suite des textes, on voit bien que les religieux de l'époque ont été très durs, notamment vis-à-vis du Seigneur Jésus, vis-à-vis de tous les gens qui suivaient le Seigneur et du Seigneur en particulier, puisqu'ils l'ont condamné et cette condamnation l'a amené à la croix. Bien sûr, c'était le plan de Dieu, mais la situation était difficile. Et de notre temps, eh bien, on peut dire que, bien sûr, les temps ont changé, il y a le modernisme, il y a un tas de choses, mais après tout, si on veut parler de Dieu, ce n'est pas forcément facile. Alors nous, peut-être, au sein de nos églises respectives, voulons-nous être aussi des Jean-Baptistes? Voulons-nous aussi apporter, eh bien, prêcher, être comme une voix qui crie aux hommes d'aujourd'hui? Certainement, nous avons cela à cœur dans nos églises, peut-être pas tout le monde, mais je crois que c'est la vocation de l'Église, bien sûr, de rendre un culte à notre Dieu, mais aussi de faire connaître à nos contemporains, eh bien, ce message. Alors, le texte d'Ésaïe nous parle d'une voix qui criait. Et cela, eh bien, déjà peut nous interpeller. À l'époque, certainement que les gens étaient un peu sourds, pas sourds physiquement, mais ils avaient du mal à entendre l'appel de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, notre génération a aussi ce mal d'entendre. Bien sûr, il y a la gloire de Dieu qui est manifeste. La Bible nous dit que même dans la nature, on voit la gloire de Dieu. Mais les gens sont tellement occupés, ont tellement de préoccupations, qu'ils ne savent plus voir ces choses-là. Et bien sûr, bien souvent, il faut crier, il faut... Alors crier, tout ça, c'est relatif, mais c'est l'image qui se cache derrière. Il ne faut pas s'arrêter de parler, et même encore de parler. Donc, cette voix qui crie dans le désert, dans notre désert peut-être, eh bien, nous devons l'écouter. Alors, certainement que nous avons à cœur de partager, eh bien, ce que nous avons vécu avec les autres, avec ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, avec ceux qui n'ont pas fait cette expérience, avec ceux qui sont encore dans les problèmes, les difficultés. Nous avons certainement à cœur de partager cela. Mais nous allons regarder les versets 3 et 4 d'Ésaïe qui va nous montrer, eh bien, comment s'y prendre. Comment peut-on préparer au désert le chemin de l'Éternel? Et peut-être même, avant même d'annoncer cette bonne nouvelle aux autres, avant même de crier, eh bien, en dehors de nos églises, peut-être que cette voix a besoin de retentir dans nos cœurs. Peut-être nous aussi avons-nous besoin, eh bien, de nous mettre à l'écoute, de préparer dans nos vies de tous les jours, dans nos vies d'église, dans nos cœurs, eh bien, et de préparer un chemin de l'Éternel, comme il nous a dit. Alors, Ésaïe va nous donner quelques conseils, et c'est ces quelques conseils que j'aimerais partager avec vous cet après-midi. Le premier conseil d'Ésaïe, il nous a dit, aplanissez. Aplanissez. Il faut croire que parfois, eh bien, peut-être que les différentes circonstances de la vie on fait que peut-être nous avons des obstacles dans notre vie. Peut-être que nous faisons barrage à la présence de Dieu. Peut-être que certaines choses empêchent Dieu de prendre pleinement la place dans nos vies, dans nos cœurs. Et le conseil d'Ésaïe, c'est aplanissez. Les lieux sont arides. Peut-être que parfois nos cœurs sont arides. Je l'ai dit, le monde qui nous entoure est aride. Alors ici à Paris, que ce soit à Paris, en province... Alors on va être tenté de dire peut-être que dans un pays c'est plus dur que dans un autre, c'est vrai. Mais je crois que là où nous sommes, là où Dieu nous a placés, eh bien nous devons nous mettre à l'écoute. À l'écoute de ce Dieu qui nous dit avant même que tu partes à l'extérieur, eh bien j'ai besoin déjà de faire un travail en toi. J'ai besoin d'aplatir ce chemin pour que je puisse prendre pleinement ma place. Donc Isaïe nous dit aplanissez, préparez une route pour notre Dieu. C'est vrai que Jésus a dit je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Et si nous voulons vraiment prendre ce chemin, il faut que Dieu prenne toute la place dans nos vies. Alors, c'est vrai, Isaïe va crier aplanis cette route dans nos cœurs, dans nos vies. Alors, comment peut-on faire ça? Déjà, il faut reconnaître que nous avons besoin de laisser le Seigneur agir dans nos vies. Peut-être reconnaître nos péchés. C'est peut-être étrange ce que je vais vous dire cet après-midi, mais même quand on est chrétien, et la Bible nous dit que celui qui n'a pas de péché est menteur. Donc il faut que nous puissions reconnaître nos péchés, nos erreurs, peut-être nos manquements. C'est là le début de la préparation du chemin que Jean prêchait. Jean prêchait la repentance. Et certainement que nous aussi, nous avons besoin de faire ce chemin de repentance. Bien sûr, nous fréquentons une église et c'est bien. Et là, je prêche aussi pour moi. Quand j'ai préparé ce texte, je dis ça m'interpelle. Dans le livre des Chroniques, il est dit « Si mon peuple... » Bien sûr, ça s'adressait aux temps anciens, mais ça peut s'adresser aussi aujourd'hui à nous tous. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom ?»« Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom ?»« S'humilie. » »« S'humilie. » Ah, c'est pas facile. C'est vrai que cet après-midi, je ne suis pas venu vous dire des choses agréables. Mais pourtant, je pense que c'est important d'être à l'écoute. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est le peuple de Dieu auquel Dieu s'adresse. Ce n'est pas les gens de l'extérieur, le peuple de Dieu. Cette parole était valable en son temps. Je crois qu'elle est toujours valable aujourd'hui. Pour nous, chrétiens de cette église, pour moi qui suis chrétien d'une autre assemblée, et pour mon frère qui sera aussi chrétien de notre assemblée, pour toute la communauté chrétienne, cette parole retentit. C'est une voix également qui crie dans notre désert peut-être. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Oh là là, mince alors. Serions-nous partis dans de mauvaises voies? Alors je ne dis pas que c'est une généralité, mais parfois nous pouvons nous laisser surprendre. Je lisais hier un livre d'un frère pasteur, d'un frère pasteur, qui lui a fait une expérience terrible dans sa vie. Je ne vous dirai pas laquelle, mais à l'insu, comme ça, il s'est fait avoir. Il était pasteur d'une église, il prêchait. Il apportait la parole de Dieu et son église grandissait. Mais au fond de son cœur, dans sa vie personnelle, il avait un problème. Et ce problème, bien sûr, un jour, a été mis en lumière. Et voyez, ce frère était pasteur, il a reconnu qu'il avait un problème. Et devant toute l'assemblée, il s'est confessé. Et là, le Seigneur a fait une œuvre de restauration dans sa vie. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché se fait menteur. Et je crois qu'aujourd'hui, cette voix qui nous dit, si tu t'humilies, si tu pries, si tu cherches ma face, si tu te détournes, alors je t'exaucerai des cieux, je te pardonnerai ton péché et je guérirai ton pays. Seigneur, que cette prière soit la nôtre également, alors déjà, ça va être un bon commencement pour aplanir, pour laisser la place à notre Dieu de venir dans nos vies. Et on pourrait ajouter cette prière, Seigneur, donne-nous les chaussures du zèle qui nous est... Cette parole nous est rappelée dans l'Éphésiens, que nous ayons du zèle pour te suivre sur le chemin. Alors Isaïe continue ses conseils, donc aplanir. Ensuite il dit que toute vallée soit exaucée. Alors que toute vallée soit exaucée, ça veut dire en bon français que toute vallée soit relevée ou que toute vallée soit comblée. Alors qu'est-ce que ça veut bien pouvoir nous dire? Et je ferai un peu le parallèle avec les défilés étroits qui nous préconisent d'être mis en ballon. Les vallées relevées. Donc exaucer une vallée, ça veut dire la combler, la relever. Transformer les défilés en vallons, ça veut dire les ouvrir. Un défilé, c'est quelque chose d'étroit. Donc il faut relever les vallées et ouvrir ces fameux défilés. C'est ici, dans cette version, on parle bien de défilés. Dans d'autres versions, on parle d'endroits rocailleux. Alors selon la version, j'ai regardé plusieurs versions, mais celle-ci est bien. Alors, on peut déjà regarder une vallée ou un défilé. Une vallée, c'est quelque chose où la lumière dans la journée arrive beaucoup plus tard que dans la plaine. Les défilés étroits sont des endroits dangereux. Rappelez-vous, quand on était jeune, et même moins jeune, on regardait les westerns. Maintenant, c'est un peu passé de mode. Et les Indiens, ils attaquaient dans les défilés. Non, mais il est d'accord. Il a vu les mêmes que moi. Hein, on est d'accord. Voilà. Les défilés sont dans des endroits dangereux. Il peut y avoir des avalanches, des embuscades. Dans les westerns, c'était des embuscades. On peut se faire surprendre par une crue, un truc comme ça. Et dans les défilés étroits, la lumière a du mal à percer. Alors ça, c'est d'un point de vue physique, bien sûr, mais d'un point de vue spirituel, qu'est-ce que ça peut représenter, ces vallées, ces défilés étroits? C'est ce qui est un peu caché, c'est ce que l'on veut enterrer au fond de nous. Ces endroits représentent peut-être quelques ténèbres qui restent enfouies en nous, des zones d'ombre. Ce sont des choses que l'on n'expose pas, mais que l'on enfouit, que l'on cache. Alors parfois, ce sont peut-être des désespoirs, des craintes irraisonnées ou raisonnées, des angoisses, des souffrances qui ont peut-être marqué notre enfance, des abus que nous avons pu souffrir, quels qu'ils soient, toutes nos détresses que nous avons pu vivre, rejet, abandon, honte, mépris, maltraitance, toutes ces choses qui nous ont fait mal et que parfois on n'ose pas en parler. Et bien sûr, je ne dis pas que tout le monde a été affecté par ces problèmes-là, mais quand on discute avec les personnes dans une église, et moi, il m'arrive souvent de parler avec les gens à la sortie du culte, pas seulement un bonjour, comment ça va, mais des fois on parle. Et quand on gratte un petit peu, sans vouloir connaître la vie des gens, les gens se confient, ils nous disent « Ah là, j'ai un problème, j'ai ci, j'ai ça ». Ce sont des choses dont on ne parle pas facilement. Alors consciemment ou inconsciemment, on les cache. Nos brisures internes, les chaînes, peut-être c'est une chaîne qui nous retient captifs. Et bien sûr, ça a forcément un impact sur notre vie. Nous pouvons venir à l'église, afficher un beau sourire, mais derrière nous souffrons peut-être. Dépression, insomnie, culpabilité parfois, frustration et parfois d'autres mots. Alors Ésaïe nous dit, eh bien, tout ce qui est dans la vallée caché, là, eh bien, il faut ressortir tout ça. Il faut relever. Et le Seigneur nous invite non pas à cacher ou à enfouir tous ces problèmes-là, il nous invite à régler tous ces problèmes, à en être délivrés. Mais je ne dis pas que c'est facile. Ce n'est pas facile de se confier, de reconnaître qu'on a peut-être été... On s'est laissé aller à qu'une dépression est venue sournoisement nous affecter, que peut-être on a un péché caché. Satan se cache, lui. Et sachant, Satan aime bien que l'on enfouisse nos péchés, ça lui plaît. C'est vrai que Jésus a parlé aux religieux, ces religieux qui avaient une belle apparence, mais il leur dit, vous êtes des sépulcres blanchis. C'est terrible d'entendre ça. À l'extérieur, tout est beau, mais à l'intérieur, c'était terrible. C'est pourquoi le Seigneur nous indique, nous ordonne d'exposer toutes ces choses à la lumière, tout ce qui est enfoui, de le ressortir, de mettre à plat. Parfois, on dit dans la vie courante, eh bien, je vais mettre à plat telle chose, telle situation. Tous ces problèmes qui peuvent nous affecter, eh bien, nous devons les amener à la lumière. Nous devons suivre ce conseil d'Ésaïe qui vont nous amener à la purification, à la sanctification, la guérison. Eh bien, si on ne le fait pas, on peut rester bloqué et notre souffrance peut rester à tout jamais. Nous pouvons traîner des souffrances Et parfois, des chrétiens eh bien, traînent leur vie comme un boulet, c'est-à-dire que leur souffrance, eh bien, ils la baladent. Et c'est terrible. Pourtant, le sacrifice de notre Seigneur Jésus a tout réglé sur la croix. Christ a tout porté, nos infirmités, nos souffrances, nos abîmes, nos abus, nos rejets, nos maltraitances. Tout ça, ça a été réglé une fois pour toutes. La Bible nous rapporte qu'il a tout porté. Rien de ce qui peut nous affecter, eh bien rien qu'il n'ait porté. Il s'est sacrifié pour cela. Tout a été réglé il y a plus de 2000 ans, c'est vrai. Mais le Seigneur nous demande parfois de faire un effort, d'amener ça à la surface. C'est notre part d'amener ça à la lumière. Alors le Seigneur nous exhorte à régler ça, à régler nos affaires, les souffrances intérieures, les péchés cachés. Il veut notre bonheur, pas notre malheur, bien sûr. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Et comment pourrait-on juger un frère ou une sœur si nous-mêmes, nous avons toutes ces souffrances intérieures? Il faut oser aller vers la délivrance. C'est vrai que ce n'est pas facile. Le Seigneur veut nous élever. Il veut que notre vallée eh bien, soit relevée. Il veut nous transformer. Je crois qu'il faut entendre la voix d'Isaïe qui crie. Elle retentit dans nos cœurs, cette voix, et elle nous dit, eh bien, tout ce qui n'est pas, tout ce qui te freine aujourd'hui, tout ce qui te bloque, tout ce qui m'empêche de te donner toute la bénédiction, eh bien, relève. Mets ça à la lumière du jour. Mets ça à la lumière de ma parole. Et tu verras que les choses vont changer. Alors, n'endurcissons pas nos cœurs, ne soyons pas incrédule en pensant que rien ne peut être fait, que tout doit être comme toujours. Donc sachons choisir la lumière et n'ayons pas peur du qu'en dira-t-on. C'est vrai que certains se confortent dans leurs problèmes, ça arrive ça. C'est terrible de dire ça. On voit des personnes qui, bon, ils ont leurs petits problèmes, leurs choses, et ils se confortent là-dedans. Et ça c'est quelque chose de terrible parce que on ne peut plus avancer, on est scotché, on est dans notre vallée, là, la lumière passe en dessus de nous, mais nous restons cachés. Alors sachons entendre la voix d'Isaïe qui crie dans notre désert. Alors Isaïe va encore nous dire des choses intéressantes. Juste avant ça, t'es allé un petit coup trop loin, là. Que toute montagne et colline soient abaissées. Alors là, c'est le contraire. Là, on vient de parler de relever la vallée, et maintenant, on nous parle de montagnes, de collines qui doivent être abaissées. Alors là encore, on peut se poser la question, mais à quoi tout ça, ça correspond? Les montagnes, les collines, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, c'est ce qui se voit. Dans la vallée, on voit les choses sont cachées, on ne les voit pas. Par contre, les montagnes, ça se voit de loin. Les collines, ça se voit de loin. Et ça peut signifier que ce qui se voit là n'est pas forcément bon, mais que sa demande a été abaissée, selon le conseil d'Ésaïe. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire à nous? Peut-être, ça nous parle à nos propres vies, à notre ego, à notre moi. Peut-être qu'on a envie parfois de se mettre en avant, de se mettre sur un piédestal. Bon, ces choses-là n'arrivent pas forcément comme ça, mais on aime parfois peut-être se mettre en avant. C'est l'orgueil qui peut prendre le dessus. La maîtrise de vie par nous-mêmes, on oublie que Dieu est maître de toutes choses. On se dit, j'ai fait ci, je fais ça, je pense que. Mettre en avant nos propres œuvres, alors que la Bible nous dit que Dieu a préparé des œuvres afin que nous les réalisions. Ce ne sont pas nos œuvres, c'est Dieu qui les prépare. C'est vrai que la chute de Satan a été causée par son orgueil. Et donc le Seigneur nous invite à nous laisser dépouiller, comme le Seigneur lui-même l'a fait, et à revêtir ce manteau d'humilité, l'humilité dont je parlais tout à l'heure, dans ce texte des Chroniques et nous mettre non pas en avant mais au service des autres, au service de notre Église. C'est parfois un peu dur tout ça. Je ne vous dis pas des choses agréables cet après-midi, mais quand je regarde cette parole d'Ésaïe, je me dis, bon, on a certainement quelque chose à faire si on veut préparer la suite. Alors cette montagne, parfois, elle a une autre signification. Dans Matthieu, il nous est dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. L'incrédulité, ça peut être une montagne aussi. Le doute. Marc encore va dire, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne le doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. Alors il est sûr qu'il ne s'agit pas ici de déplacer le Mont Blanc, on est bien d'accord. On ne parle pas des montagnes physiques. Mais parfois dans nos vies, on se dit, ce problème-là est comme une montagne, je n'arrive pas à m'en sortir. Donc avec Ésaïe, eh bien, rabotons ces montagnes, nivelez votre incrédulité, rabotez et élevez votre foi, par contre, ça, oui. C'est vrai que nous devons examiner notre foi, non pas celle de croire en Dieu, parce que je crois qu'ici, nous croyons tous en Dieu, mais celle qui consiste à croire ce que dit la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Nos doutes, nos craintes sont des pilleurs de la foi, c'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre de notre foi. Le doute, parfois, peut détruire notre foi et finalement, il ne reste plus grand-chose. Alors, avec Ésaïe, eh bien, disons, abaissons nos montagnes, nos collines. Ne soyons pas comme Satan qui monte au sommet de la montagne et qui admire ses possessions, ses trésors, ses royaumes. Ici-bas, nous avons quelques possessions, mais ce n'est pas ça qui compte. Notre vision, c'est le royaume de Dieu. Donc la Bible nous dit que l'homme sage se prépare et revêt le manteau de l'humilité et l'esprit du service. L'homme sage se prépare aussi à renoncer à lui-même, selon le modèle de Christ. Alors cet après-midi, c'est vrai que bon, le temps passe, on va arriver au terme de notre méditation, mais je pense qu'il est important de s'arrêter sur ce texte, sur ces deux versets du chapitre 40, les versets 3 et 4, et de redire avec Ésaïe, oui Seigneur, nous avons besoin nous-mêmes de nous examiner, d'analyser notre situation. À chacun de faire pour son propre compte l'analyse et se dire, oui, Seigneur, je veux que tu prépares un chemin, que ce qui est caché eh bien, soit mis au jour, ce qui est élevé en moi eh bien, soit abaissé. Chacun, ça je ne peux pas le faire à votre place et vous ne pouvez pas le faire pour moi. Chacun, personnellement, doit faire cet examen. Et bien sûr, on termine par une note. Donc là, tu peux aller un pas en avant. Alors, si nous avons fait ce cheminement, c'est comme l'informatique, si, alors, condition, alors, tac. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Dieu va se révéler dans nos cœurs. Toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et je crois que c'est ce que nous voulons expérimenter, voir Dieu agir dans nos vies, dans nos cœurs. Si nous faisons comme Ésaïe, si nous suivons le conseil d'Ésaïe, eh bien, nos vies reflèteront la gloire de Dieu. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir cet après-midi. Cette note positive, bien que ce que je vous ai dit, tout en étant des paroles dures, sont des paroles positives, car elles nous positionnent dans notre vie, elles nous permettent de réfléchir. Sachant que l'issue est glorieuse, la gloire de Dieu qui va être révélée dans nos vies. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec cet après-midi. Moi, je suis le premier à être concerné par ce message-là. Que Dieu nous aide à réaliser, à mettre en pratique sa parole, que nous puissions expérimenter dans chacune de nos vies ses conseils d'Ésaïe, les mettre en pratique. Alors, nous pourrons dire « Gloire à toi Seigneur, car maintenant ta grâce coule dans ma vie et je suis prêt eh bien, à aller crier à l'extérieur. Maintenant, je suis fin prêt. Et ce que j'ai expérimenté moi, maintenant, je suis prêt pour le dire à l'extérieur. » Donc cette parole d'Ésaïe, c'est une parole à plusieurs étages. Elle était valable au temps du Seigneur, au temps de Jean-Baptiste. Elle est valable pour nous. Et elle est valable aussi pour ce monde qui nous entoure. Amen, et que le nom du Seigneur soit béni.